fils de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Voilà, bon, le passage en lui-même, il est déjà riche. Pardon, je mange. Je suis comme Fred. Ce passage, ce récit, c'est le récit d'un homme important, Naaman, et puis d'autres personnes qui sont moins importantes, voire insignifiantes, notamment les serviteurs de Naaman, et puis cette petite servante. Tout cet épisode, il se passe autour de la situation de Naaman et sa relation avec ces différentes personnes. Ce récit, c'est l'histoire du plan souverain de Dieu sur sa création, et en l'occurrence sur un peuple. Alors Dieu a donné la victoire, on l'a vu, au peuple syrien, même si ce n'est pas son peuple. On apprend dans la Bible que son peuple élu, c'est le peuple d'Israël. Mais là, il donne quand même la victoire au peuple syrien, même si ce n'est pas son peuple, et qu'ils sont païens. Cette petite fille qui a été séparée de sa famille, et dont on sait très peu de choses, elle est aussi dans le plan souverain de Dieu. Elle va jouer un rôle crucial, comme on va le voir. On peut imaginer qu'ayant été élevée dans une famille israélienne, elle a appris les coutumes et les traditions, et elle a été imprégnée des rites concernant Dieu dès son plus jeune âge. Alors Naaman, il nous est présenté comme le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc les différentes informations qui nous sont données, elles nous laissent imaginer un homme fort, puissant et certainement très riche. Il est probablement la deuxième personne la plus importante du royaume après le roi. La Syrie, c'est un pays magnifique, qu'il est toujours aujourd'hui, même s'il a été déchiré quand même par la guerre. Mais on peut se mettre à la place de Naaman et imaginer ses nombreuses possessions, peut-être une, plusieurs belles maisons, un paysage magnifique, des serviteurs, des servantes. Et au-delà de tout ça, on voit que c'était aussi un homme qui réussissait, qui avait du succès dans ce qu'il entreprenait. Et à cette époque, pour avoir une bonne place, là il était quand même... C'est général, quoi, comme l'équivalent d'un premier ministre, peut-être. Et ben, il fallait le mériter pour rester à sa place, et il fallait s'en montrer capable, surtout. Et on voit que si Naaman est efficace à son poste, si c'est un bon général, on voit que c'est parce que Dieu l'a permis. C'est Dieu, il est dit, qui a délivré le peuple syrien par le biais de Naaman. À ce stade de sa vie, Naaman ne connaît pas Dieu, ou en tout cas, s'il en avait peut-être entendu parler, il ne le connaissait pas personnellement comme son Dieu. Mais ça n'empêche pas que Dieu exerce sa grâce sur la vie de Naaman. Et en effet, la Bible, elle nous parle, alors il n'y a pas le terme forcément dans la Bible, mais elle nous parle de la grâce commune, et c'est cette grâce que Dieu va exercer sur tout homme et toute femme. Et donc tout ce qui est avoir un travail, des réussites dans sa vie, avoir une famille, une guérison, on peut ajouter plein de choses positives. On voit plein de belles choses qui se passent dans notre monde et qui sont réalisées pas forcément par des personnes qui sont chrétiennes. Toutes ces choses, c'est des exemples de cette grâce commune que Dieu exerce sur tous les hommes et toutes les femmes. Donc Naaman, c'est un homme qui a presque tout pour être heureux. Et on apprend que son seul problème, j'ai mis entre guillemets parce qu'il y en a peut-être sûrement d'autres, mais son gros problème en tout cas, c'est qu'il est lépreux. C'est un homme qui pouvait avoir accès à tout ce que la vie peut offrir. Tout ce qu'il possède, toutes les bonnes choses, il n'en profite pas parce que sa lèpre l'en empêche. Il lui manque quelque chose dans sa vie. Alors dans le livre du Lévitique, chapitre 13, versets 1 à 46, que je ne vais pas vous lire, sinon ce sera un peu long, il est parlé de la lèpre. Qu'est-ce que c'est la lèpre et qu'est-ce que Dieu surtout commande lorsqu'une personne en est affligée? Donc il y a toute une procédure, on pourrait dire, quand une personne elle suspecte qu'elle a la lèpre, etc. Il y a pas mal d'étapes. Bon, en tout cas, c'était une maladie qui avait pour effet de dessécher la peau, et quand elle évoluait, elle pouvait toucher tout le corps et amener jusqu'à la perte de membres. Longtemps incurables, les lépreux étaient souvent mis à l'écart dans la société pour éviter justement la propagation. Et on lit dans différents récits de la Bible que les lépreux étaient mis au banc de la société. Et tout ça, ça a été le cas dans certains pays jusqu'au début du XXe siècle. Et dans la parole, on est familier avec les passages où Jésus va guérir les lépreux. Ils sont souvent assis sur le bord d'une route, à la sortie d'un temple, etc. Ils étaient toujours à l'écart. La Bible, elle associe la lèpre avec une condition de péché. Je vais vous lire Nombre 5, versets 1 à 4. C'est pas très long. L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. » Alors gonorrhée, c'est a priori, c'est l'équivalent d'une IST. « Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Donc ceux qui étaient affligés dans la communauté juive, ils devaient être renvoyés du camp. Et on lit que le camp y représente la présence de Dieu. Et donc, cette souillure, elle ne pouvait pas être tolérée dans la présence du Dieu saint. Une autre chose que la Bible nous apprend, c'est que le monde dans lequel nous vivons est affligé d'une maladie similaire, c'est le péché. Et ce péché ne peut pas être toléré dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que le péché? On entend beaucoup parler. La Bible, elle le définit et elle en parle de différentes manières. C'est tout d'abord notre hostilité naturelle contre Dieu, que nous avons hérité d'Adam à la chute. Et dans Romains 8, versets 7 à 8, on peut lire « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Donc la chair, le péché, ça ne veut pas forcément dire exactement la même chose. Parce que le péché, il parle d'un mal en particulier. La chair, c'est plutôt la nature de l'homme. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, l'effet du péché, c'est ça. C'est qu'il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il ne peut pas. Le péché, c'est aussi le rejet et la désobéissance que nous avons envers la loi parfaite de Dieu. Donc on a les 10 commandements, qui sont en fait plutôt les grands titres de grandes familles de péchés, on pourrait dire, parce que la liste est très longue. Donc Dieu nous a donné les 10 commandements. Et nous pouvons pécher soit par omission, c'est-à-dire manque de conformité ou d'obéissance. Par exemple, quand Dieu nous dit « honore tes parents » si on ne le fait pas. Mais on peut aussi pécher par commission, par exemple en faisant ce que Dieu prohibe. Donc s'il nous dit « ne tue pas, tu ne tueras point », si on tue, on pêche par commission, parce qu'on commet. La parole de Dieu, la Bible, elle devrait toujours être interprétée avec Jésus-Christ comme son objet ou sujet principal. Alors en effet, si je devais résumer ce qu'est la Bible, je dirais qu'elle nous relate l'histoire du salut, comment Christ est venu sur terre pour sauver les hommes et les femmes. On doit toujours chercher Christ dans la parole, et dans notre passage, Élisée, c'est un type, c'est-à-dire une image qui annonce Christ. C'est un type de Christ. On en a plusieurs dans la Bible. Élisée en est un. Et dans différents récits de rois, on peut lire qu'Élisée fait des miracles. Dans 2 rois 2, 19 à 25, par exemple, il ressuscite même un enfant qui est mort. Dans 2 rois 4, versets 8 à 37. Et il y a d'autres passages où on voit comme ça qu'Élisée, il fait des choses qui peuvent l'identifier à Christ. Et c'est encore plus frappant, bien sûr, quand on voit dans ce passage comment Élisée, au nom de Dieu, va guérir Naaman. Une autre personne, la petite fille, alors elle, à mon avis, c'est un des personnages qu'on oublie assez facilement. En même temps, elle n'est pas citée beaucoup. Elle est simplement mentionnée rapidement au début du passage, alors qu'elle joue un rôle tellement crucial en informant la femme de Naaman de cette bonne nouvelle. Déjà, on peut noter sa foi, qui est quand même incroyable malgré le contexte dur dans lequel elle se trouve, mais aussi l'amour qu'elle a pour son maître, alors qu'elle est quand même esclave et en captivité. Et souvenons-nous qu'elle est identifiée comme petite, alors on ne connaît pas son âge, c'est peut-être fait exprès, mais on comprend en tout cas qu'elle est bien jeune. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas mentionnée plus qu'en ce début de passage. Alors certains érudits pensent qu'elle était issue d'une famille importante d'Israël, et c'est pour ça que c'est Naaman qui l'a prise en esclavage chez lui. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste, cette petite fille, un exemple très important pour les chrétiens parmi nous, à avoir une foi comme un enfant dont Jésus nous parle dans la Bible, dans le Nouveau Testament, avoir cette simplicité. Elle ne cherche pas à briller, la petite fille, elle sait qu'il y a une solution pour Naaman, elle sait qu'il est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui annonce cette bonne nouvelle, et puis Dieu se charge du reste. Alors notre pauvre Naaman, il devait quand même être assez désespéré, parce qu'on voit la rapidité avec laquelle il se précipite chez son maître, chez son roi, pour aller voir le prophète qui pourrait le guérir. Donc, sûrement qu'il avait essayé pas mal de choses, Naaman, pour être guéri, mais pas de solution. Donc là, il apprend qu'il y a une nouvelle, il se dépêche d'aller voir s'il peut y aller. Et le roi, il lui permet cette grâce de le laisser partir. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'allait pas et venait comme ça dans un royaume. Il fallait l'autorité du roi pour circuler, sortir de son pays. Donc on peut voir quand même, comme ses succès, ses victoires militaires, sa position de bon bras droit, de bon serviteur du roi de Syrie, tout ça, ça a pesé dans la balance pour permettre à Naaman d'aller voir ce prophète Élisée. Et on voit bien comment la main de Dieu, elle guide cette situation. Ça nous est montré, Dieu le fait, lui donne des victoires, etc. Et tout ça l'emmène progressivement jusqu'à aller voir Élisée. Ensuite, au verset 5 et 7, on est témoin d'une situation un peu étrange. Alors le roi de Syrie, qui était Ben-Hadad II à cette époque-là, alors c'était plutôt une menace militaire pour le peuple d'Israël. Sauf que là, il envoie une lettre en disant je t'envoie mon général, il faut que tu le guérisses de la lèpre. Alors ça, la réaction est immédiate, il pense que c'est un piège forcément, ça paraît quand même absurde, c'est son ennemi de toujours, et là il lui envoie ce gars-là à guérir. Alors la situation, elle peut nous faire sourire, parce qu'en même temps, le roi de Syrie, il n'a pas forcément réfléchi, il s'est dit s'il y a une solution, elle doit être là, chez ce roi. Mais est-ce que dans nos vies, on ne cherche pas des fois à faire un peu pareil, chercher nos solutions en haut lieu, dans les endroits importants, en se disant que si ce n'est pas un petit peu compliqué, si ce n'est pas important, la solution ne peut pas venir de là. Mais la Bible, elle nous montre que la solution, elle vient d'une source inattendue. La jeune servante, la guérison au travers d'un homme simple comme Élisée, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, le Sauveur du monde, Jésus, qui est né dans une étable, dans le village insignifiant de Bethléem, les disciples, qui étaient des simples pêcheurs de poissons, collecteurs d'impôts, etc. Une source inattendue. Alors on voit un contraste, un réel contraste, entre la grandeur de Naaman et la situation humble d'Élisée. Alors je me suis imaginé un peu la scène, l'arrivée de Naaman, donc on lit, hein, avec son char, ses chevaux, etc. Puis il avait quand même pris pas mal d'affaires avec lui, hein, des vêtements de rechange, pas mal d'argent, d'or, etc. Et lui, certainement, il devait quand même s'attendre à être bien reçu. C'est quand même un général, c'est sûrement la deuxième personne la plus importante du royaume de Syrie. Donc il devait s'attendre à un bel accueil, peut-être des gens autour qu'il a acclamé, etc. Sauf que pas vraiment. Il arrive, et puis il n'y a personne. Même Élisée, le prophète, le fameux prophète, il n'est pas là. Il a juste envoyé un messager. Il dit, ben, va te laver là-bas dans le Jourdain cette fois, et puis c'est bon, c'est réglé. Donc, si on se met à sa place, c'est quand même, voilà, comme je l'ai dit, quelqu'un d'important. Sa réaction, quand on voit au verset 11, ben, il répond avec un peu fureur, etc. Sa réaction, elle est compréhensible. Lui, il se sent insulté, puisqu'on ne le reçoit pas à la manière qu'on devrait. Et puis, il est furieux à ce commandement qui lui est donné, puis à la manière dont il est reçu. Et aussi, les eaux du Jourdain, elles sont connues à cette époque pour ne pas être très propres. Elles étaient plutôt sales, plutôt boueuses. Alors pourquoi il devrait aller se laver dans cet endroit? Ça ne semble pas trop la méthode appropriée pour sa maladie. Et puis il le dit lui-même, hein, les fleuves de Syrie ils sont quand même plus beaux, plus propres, sûrement plus grands. Donc il y a moins de risques peut-être d'infection, je ne sais pas. Pourquoi il ne pouvait pas simplement se laver chez lui? Ça aurait été plus facile tout ça. Alors chaque conversion est différente. Et vous savez, moi je comprends un peu Naaman, parce que pour ma part, j'ai été bercé dans le milieu chrétien depuis toujours. Et j'ai longtemps été travaillé par la question de mon salut, parce que je cherchais cet événement exceptionnel dans ma vie où il y avait eu un changement radical, comme Naaman recherche. Mais je ne l'ai pas trouvé. Par contre, je me souviens du jour où j'ai accepté l'offre du salut, dans la simplicité, quand j'étais un peu plus jeune. Et puis les changements dans ma vie, ben, ils ont eu lieu sur du long terme. Il n'y a pas tout qui s'est réglé d'un coup. Et en préparant cette partie, j'ai pensé à un temps dans ma vie, un temps particulier où j'ai bataillé avec une certaine difficulté. Alors ça a duré pas mal de temps, j'ai prié pendant des années, et puis rien ne changeait. Alors un jour, j'ai réalisé que cette difficulté, elle avait tout simplement disparu de ma vie, depuis un moment même. J'y avais pas pensé, et puis un jour je me rends compte, mais en fait, il n'y a plus rien. Tout ça sans que je m'en rende compte, ce combat avait été vaincu. Alors pendant longtemps, rien ne s'est passé, parce que je pensais que c'était ma prière, que c'était moi qui pouvais, en demandant à Dieu quand même, me guérir, selon ce que je pensais que Dieu pouvait faire dans ma vie. Donc au final, ça restait un peu en mes propres termes. Un peu comme Naaman qui dit, mais il n'est pas censé me guérir comme ça, en agitant les mains, tout ça. Voilà. Lui, il savait déjà comment il allait être guéri, mais ça ne marche pas comme ça. Et j'ai compris que ce temps d'attente, pour moi, qui était quand même assez long, ben ça avait été pour que Dieu me montre que c'était seulement parce que j'avais abandonné à Christ, dans l'humilité, en admettant que par moi-même, je n'avais pas la force de vaincre cette difficulté. Et ben c'est à ce moment-là que Dieu a pu faire son œuvre. Et depuis, j'ai gagné d'autres combats en laissant mes difficultés à la croix, en laissant Dieu agir en ces termes. Les voies de Dieu, sa manière d'agir dans nos vies, sera bien souvent différente de ce qu'on pense, de ce à quoi on s'attend. Naaman, il avait besoin d'être humilié. Et puis ses propos, ben, ils montrent bien du coup, qui s'attendait à être guéri de manière exceptionnelle, en grande cérémonie. Peut-être parce que justement, il pensait être quelqu'un de très important et qui méritait quand même mieux que ça. Mais la parole, elle nous montre que notre Seigneur travaille d'une manière différente de nos attentes. Et la bonne nouvelle, comme je l'ai dit plus tôt, elle vient d'une source inattendue et l'humilité est nécessaire pour s'approcher du Dieu Tout-Puissant. Dans un premier temps, Naaman rejette ce remède qui lui est offert. C'est dommage, c'était pour ça qu'il était venu. Une personne qui n'est pas consciente de sa condition, de son état de maladie, ben, elle ne sait pas qu'elle a besoin d'être guérie. Alors peut-être qu'il souffrait, tout ça, mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas encore réalisé. Donc même s'il souffre, Naaman, tant qu'il ne se voit pas comme malade, eh ben, il ne pourra pas accepter cette cure. La parole, elle nous dit qu'à cause d'Adam, chaque homme et chaque femme sont malades parce qu'ils ont péché contre Dieu. Il y a quand même une idée qui circule, une idée fausse, que pour être sauvé, il y a quelque chose à faire. Respecter les commandements, avoir un comportement exemplaire, être poli, être bien présenté, bien présentable, etc. On peut ajouter plein de choses dans cette liste, on en a tous entendu. Mais tout ça, c'est contraire à l'Évangile. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas important, je crois même que ça l'est. Mais la parole est claire sur l'accès au salut qui ne se fait que par la foi en Jésus. Et je crois qu'on l'a chanté même tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, à son sacrifice à la croix, il a payé le prix pour nos péchés. Il a vécu une vie parfaite et sans faute, parce qu'on ne pouvait pas et on ne peut toujours pas vivre cette vie parfaite et sans faute. Il a traversé la mort, l'humiliation et la souffrance. Il a porté nos péchés et il a vécu la mort que nous méritions de mourir. Il a pris notre châtiment et notre condamnation sur lui. Alors il a fait tout ça parce que nous, on est en incapacité de le faire par nous-mêmes. Dieu nous a créés, on a été séparés, mais il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Tout cela, il l'a fait par amour pour nous, pour qu'on retrouve notre place dans son royaume et la communion avec lui. Alors si nos fautes ont été punies à la croix, c'est pour que nous, en retour, puissions acquérir le cadeau du salut et de la vie éternelle. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des personnages un peu insignifiants, et on a les serviteurs de Naaman, qui sont aussi des personnages dont on parle très peu. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, si ce n'est qu'ils sont quand même... Pardon. Qui jouent quand même un rôle super important, un rôle crucial, parce qu'ils vont défier leur maître, qui va finalement accepter ce commandement et se laver cette fois, comme Élisée lui a dit dans le Jourdain. Hein, ils lui disent, ben, si ça avait été compliqué, t'aurais essayé, mais là c'est facile et tu veux pas. Bizarre, non? Alors est-ce que Naaman aurait pu refuser, rester malade et misérable pour le restant de ses jours? Bien sûr, il avait le choix, le choix était proposé, il avait juste à partir, pas écouter ses serviteurs. Alors cette offre qui a été faite à Naaman, elle est intéressante aussi parce qu'elle nous montre que depuis l'Ancien Testament, eh bien, même avant la venue de Christ, du coup, c'était le même salut par la foi qui sauvait. Il n'y avait pas que le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, qui était concerné. Ça ne leur était pas exclusif. On sait que Dieu est venu chercher Naaman. Il est aussi venu chercher Rahab, qu'on voit dans un autre récit. Et puis aussi les Ninivites. Quand on lit l'histoire du livre de Jonas, on voit comment Dieu est allé chercher ce peuple qui n'était pas non plus le peuple d'Israël. Donc voilà, le salut par la foi sauvait les hommes et pas que le peuple d'Israël. Cette offre du salut, elle s'adresse à Naaman, mais elle s'adresse aussi à chacun de nous. Alors quiconque reconnaît aujourd'hui sa condition de péché peut dire oui à cette offre du salut. Dieu souhaite que chacun puisse venir à lui, accepte de le suivre, se repente, reconnaisse sa rébellion et ses fautes, demande pardon et soit accepté dans son royaume. Alors si dans votre cœur vous sentez cet appel, ne faites pas comme Naaman, qui dans un premier temps rejette, après le deuxième choix est plus juste quand même, Il rejette parce que ça lui semble trop facile, ou parce que ce n'est pas exceptionnel ou grandiose. Mais ça se passe entre Dieu et vous. Et Dieu ne demande rien en retour. Hein, on le voit, c'est un cadeau gratuit. Et d'ailleurs, Élisée va bien l'attester quand il va refuser les cadeaux. Et pourtant, il y en avait pas mal de cadeaux qu'il aurait pu recevoir, pas mal d'argent, etc. Mais c'est un don gratuit. Et d'ailleurs, si vous lisez la fin, là, on voit que son serviteur, il accepte le cadeau et ça ne tourne pas bien pour lui. Donc, pour ceux qui aujourd'hui souhaitent faire ce pas spirituel de suivre Dieu, eh ben, je ne vous demande pas de vous avancer ni de vous lever. Simplement, fermez les yeux et nous allons prier. Et Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous montre qui tu es, qui nous montre ce que tu as fait pour nous, comment tu es venu nous chercher et combien tu nous aimes, Seigneur. Merci pour ce récit de Naaman qui nous montre que même si nous, on peut être bornés, têtus, ben toi, tu lâches rien, tu utilises tout ce qui est possible pour aller nous chercher, même si c'est des petites choses, des personnes qui paraissent pas très importantes. Toi, tu agis, Seigneur, et on voit aussi que ton plan est tout tracé, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, du salut, pour ce sacrifice de Jésus, Seigneur, qui nous donne accès à la vie éternelle et accès à cette communion qu'on peut retrouver avec toi, Seigneur. Je te prie pour chacun ici présent, ceux qui te connaissent déjà et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses continuer à travailler dans les cœurs cette parole, Seigneur, que tu puisses tous, Seigneur, nous former à apprendre davantage qui tu es, Seigneur, à marcher, Seigneur, et à tendre vers cette perfection qui n'est accessible que par toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Merci pour cette grâce sur la vie de chacun. Et je te prie de continuer à nous bénir, Seigneur, et bénir cette journée et la semaine qui arrive pour chacun. Amen.